Bonjour, je m'appelle Grégory Philips et je dirige le service reportage de BFM TV. Le Maroc endeuillé depuis le tremblement de terre qui vendredi soir à 23h11 local a frappé la région de Marrakech et détruit de nombreux villages du Haut Atlas. Depuis samedi matin, l'antenne de BFM est quasi exclusivement consacrée à cette catastrophe. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le lundi 11 septembre, il est midi à Paris et le bilan, encore provisoire, communiqué par les autorités marocaines, est désormais de 2500 morts. Nos reporters sont sur le terrain depuis samedi à Marrakech, mais aussi dans ces villages de montagne. Clémence Dibou et Camille Fournier, accompagnées de Benjamin Danan, sont les premières à être arrivées dans la zone de l'épicentre du tremblement de terre. Les images et les récits qu'elles parviennent à nous envoyer sont terribles, alors j'ai voulu savoir dans quelles conditions elles travaillaient, ce qu'elles voient et ce qu'elles comprennent de la situation. Maroc, nos reporters dans les villages dévastés, c'est le 55e épisode du service reportage. Bonjour Clémence et Camille.
Bonjour Grégory.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux et merci de prendre quelques minutes pour nous raconter ce que vous vivez depuis un peu plus de 48 heures. D'abord, où êtes-vous ce matin précisément ?
Alors, on est à Ijoukak. C'est entre Marrakech et Taroudan, c'est plus près de Taroudan. Et c'est quasiment sur l'épicentre du séisme. C'est une sorte de petit village, tu sais, les villages rues, le long d'un axe. Et il doit rester une maison debout qui tient avec des sacs de sable. Sinon, ça n'est plus que des ruines.
Là si tu fais un 360 autour de toi, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, sur notre gauche avec Camille, on a une sorte de place un peu en terre. Normalement, c'est la place du marché. Et là, il y a des familles qui commencent à se réveiller, qui ont dormi là parce que faute de mieux, faute de maison. Donc, tu as des familles entières qui sont là. Et ensuite, si on se tourne de l'autre côté, il y a une autre côté qui devait aussi être réservée au marché du village. Et là, il y a 400 militaires qui sont postés ici. C'est un peu leur base arrière sur toute la zone. Donc il y a 400 militaires, okay. Des secouristes, on a vu des gendarmes aussi et même le Croissant Rouge. Et donc eux aussi ils dorment sur place parce que les routes pour venir ici sont quasi coupées, voire inaccessibles pendant plusieurs heures ou plusieurs jours parfois. Donc ils préfèrent dormir sur place.
Vous l'avez raconté dans les duplex et les reportages. Camille, tout est cassé autour de vous, il y a quasiment plus rien de debout.
Tout le long de la route, on voyait que petit à petit, il y avait des tout petits villages avec quelques maisons et on voyait que c'était tombé, enfin, c'était par terre totalement. Et quand on est arrivé ici, c'était encore pire. Il y a plus de maisons, c'est un peu plus condensé que ce qu'on a vu sur la route. Et là, vraiment, il y a une des maisons, par exemple, j'ai mis 15 minutes à comprendre que, en fait, ce que je voyais, c'était le deuxième étage de la maison parce que le premier étage était complètement écrabouillé sous le deuxième. Et j'ai pris conscience à ce moment-là de waouh, ouais, c'est un village très très sinistré. Et j'ai un habitant hier qui m'expliquait qu'il a eu l'impression qu'une bombe explosait à côté de lui. Parce qu'il a entendu craquer la terre et vraiment il a eu très très peur, il a cru que c'était une bombe, quoi. Et j'avais pas conscience d'ailleurs du bruit que faisait un tremblement de terre. J'avais pas conscience de ça et quand il l'a raconté, il était extrêmement ému et ce bruit l'a marqué et je pense que ça va le traumatiser pendant quelques temps.
On est dans le village d'Ijoukak, donc c'est là l'épicentre du séisme. Et il y a encore ici des opérations de sauvetage, vous les voyez sur les images de Benjamin Danan. Ce sont les secouristes des forces armées royales qui essayent de creuser un trou dans cette maison pour accéder à un jeune homme de 20 ans qui est à l'intérieur. Ils sont d'abord passés par le toit, mais en fait ils n'ont pas réussi, ils sont redescendus. Et là maintenant, ils sont à coups de masse sur le mur pour pouvoir se frayer un chemin pour rentrer jusqu'au jeune homme. Alors il y a peu d'espoir de retrouver le jeune homme vivant. Pourquoi ? Parce que ses parents qui étaient aussi dans la maison ont certifié qu'il était au deuxième étage au moment du séisme et il ne répond plus aux appels des secouristes. Donc ça risque d'être une fin malheureuse ici pour ces secouristes, mais qui continuent à persévérer parce que effectivement ici quasiment toutes les maisons ont été touchées. On vous montre souvent des maisons anciennes qui ont été touchées, mais là vous voyez que ce sont des maisons récentes. Et si on fait un pas sur la gauche, vous avez cette maison aussi. Pour l'instant, pas de victimes connues dans cette maison, mais vous voyez ce qui reste reste sur ces images. On peut même voir la force du séisme quand on va jusqu'à l'autre bout de la maison. La maison, elle a été décollée du sol sur plusieurs dizaines de centimètres. Et donc, cette maison, elle est rasée de la carte. Et si on continue, eh bien, c'est ça tout le long du village. Vous le voyez autour de nous, c'est pas vraiment une grande ville, c'est plutôt des maisons isolées, mais elles sont toutes touchées sur plusieurs dizaines de mètres. Et forcément, eh bien, c'est ici, dans trois villages aux alentours, qu'est concentré le plus grand nombre de victimes, alors que les secouristes sont toujours à pied d'œuvre ici.
Juste pour accéder à ce village, comment est-ce que vous avez fait ? Enfin, les routes sont praticables, c'est compliqué, il faut pousser les éboulis. Comment est-ce que vous avez pu ne serait-ce qu'accéder à cet endroit ?
Pour teaser, je te dis que c'est Camille qui conduisait et que ses nerfs ont été mis à rude épreuve. Je laisse Camille raconter.
Alors, j'étais au volant pendant sur toute cette route. Ça n'a pas été facile tout le long. Au début, ça va, c'est goudronné, tout va bien. On se croise dans un sens, dans l'autre. Il y a beaucoup de trafic parce que il y a des gens qui veulent quitter ces zones sinistrées. Il y a des gens qui y vont pour aider ou alors pour aller voir leur famille. Il y a des camions de l'armée, il y a du secours qui arrive. Donc, il y a beaucoup de trafic. Sauf qu'au bout d'un moment, je dirais au bout d'une heure, la route commence à ressembler plus à un large chemin de terre en construction avant le tremblement de terre. Donc il y a des pelleteuses sur le bord qui étaient en train de faire cette route. Et à ce moment-là, c'est vraiment là où il y a des éboulis partout, il y a des blocs, des rochers énormes qui sont sur la route. Et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a qu'une seule voiture qui peut passer. On ne peut pas se croiser. Donc on patiente 10, 15, 20 minutes, voire une demi-heure pour laisser passer une file de voitures, en pressant engagé. Sauf qu'en fait, on ne savait jamais de l'autre côté du virage à quoi ça va ressembler parce que c'est très montagneux. Donc on ne voit pas très très loin. Donc il fallait toujours être sur ses gardes. Il y a des cailloux partout. On ne veut pas crever un pneu. Ça paraît bête, mais crever un pneu sur des routes comme ça, déjà ça veut dire qu'on n'arrivera pas sur zone très vite, ça veut dire perdre du temps, ça veut dire probablement demander de l'aide, essayer de se mettre sur le bas-côté, c'est compliqué. Donc on essaye de faire très attention. Et j'avoue que le fossé, enfin je parle sous la direction de Clémence Dibou qui était à droite dans la voiture, donc qui était côté fossé, est un peu impressionnant.
J'ai vu, veut faire un parallèle, un César. Une voiture complètement compressée suite à l'éboulis.
Ce que tu décris, c'est évidemment les difficultés d'accès pour vous, mais donc aussi pour les secours, pour la population qui veut regagner les villes ou les hôpitaux. Donc c'est évidemment un point extrêmement crucial dans un tremblement de terre, l'accès aux zones sinistrées.
Ben oui, par exemple, là, tout à l'heure, on était avec un monsieur qui arrive de Marrakech avec sa femme. Ils sont venus sur leur propre denier avec des vivres pour distribuer des denrées alimentaires, de la semoule, du café aux habitants. Et en fait, il y a une dame qui est venue leur dire qu'il y avait un village qui était un peu isolé et que du coup, personne ne s'arrêtait jamais. Et que du coup, les gens pleuraient parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et donc, ils sont partis tout de suite en urgence vers ce village. Et donc, tout dépend de l'approvisionnement qu'ils vont avoir. Alors évidemment, au début, la route, c'est d'abord pour les secouristes, bien sûr, dans un premier temps. Et c'est vrai qu'en fait, les stocks de nourriture que peuvent avoir les petites échoppes, les magasins, parce qu'on est sur des petits villages, déjà, on ne peut manger que ce qui est consommable comme ça, parce qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Donc, on peut manger du pain, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils nous disent tous qu'il y a un moment, dans quelques jours, qui va se poser la question du ravitaillement.
Vous savez, dans ce podcast, on essaie de raconter, évidemment, les coulisses de votre métier de reporter. Et il y a une question que peut-être les gens se posent, c'est... où est-ce que vous dormez ? Enfin, comment est-ce que vous faites pour trouver de l'eau, de la nourriture et un abri pour la nuit ?
Tu connais l'expression « au cul du camion » ?
Ouais.
Voilà, bon, on a mis notre voiture dans le champ avec les gens du village et on a dormi à côté d'eux. Donc, heureusement, on avait un peu de matériel de camping, mais c'est un matelas, un tapis de sol, un sac de couchage et c'est parti pour la nuit.
Et on avait un peu anticipé, on avait acheté des packs d'eau, on avait un peu de nourriture, on avait le plein d'essence. On savait que potentiellement, là où on allait, ça pouvait être compliqué. Et par expérience, on savait qu'il valait mieux anticiper ce genre de choses et que potentiellement, on allait dormir dehors.
Parce que pour vous, comme pour la population, soit il n'y a plus de maisons, c'est-à-dire qu'elles sont détruites, soit j'imagine, s'il en reste encore quelques-unes debout, c'est sans doute dangereux de dormir à l'intérieur.
Alors oui, ça c'est vrai pour la Médina, mais là de toute façon, de mémoire, j'ai vu une seule maison debout et elle tient avec des sacs de sable. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule maison, même pas question de dangerosité ou pas dangerosité, je crois qu'il n'y a même pas une seule maison qui peut accueillir quelqu'un pour la nuit, donc de toute façon la question ne se pose pas. Et du coup, au niveau du tournage et du reportage, ça change beaucoup la donne de savoir qu'on va dormir avec les gens parce qu'on va rester avec eux. On vit des choses pas drôles avec eux. Toute la journée d'hier, en fait, les secouristes essayaient d'extraire un jeune homme de 20 ans. A priori, tout le monde s'attendait à une mauvaise nouvelle parce que les parents certifiaient qu'il était dans la maison et il répondait pas quand on l'appelait. Et on était avec la famille qui était de plus en plus tendue. Donc filmé, pas filmé, tout ça c'est compliqué. Et de toute façon, le soir, on a mangé avec eux, on a dormi avec eux. Enfin, tout est forcément un peu mélangé quand tu restes le soir en 24 heures sur 24 et tu finis pas ton reportage et tu t'en vas, tu dors le matelas à côté d'eux. Donc ça change aussi beaucoup de choses, même le regard qu'ils peuvent avoir eux sur ton travail. Ils nous ont vu duplexer toute la journée juste à côté d'eux. Enfin, du coup, c'est l'expression embedded qu'on utilise quand on travaille avec l'armée, elle est quasi vraie ici en fait.
À peine nous atteignons Moulay Brahim, dévasté par le séisme, que cet habitant nous invite à le suivre. Un hôtel menace de s'effondrer, des clients seraient encore à l'intérieur. Sur place, c'est Saïd, garçon de café, qui prend les devants, quitte à risquer d'inspecter les étages.
Bon, vous sentez l'odeur ?
Oui.
Il y a au moins 5 ou 6 corps là-haut.
Sentiment total d'impuissance pour Saïd et ses amis.
On les a identifiés, ils sont là. Mais il faudrait que les secours nous aident. Hier, on a pu sauver 4 personnes. Mais là, on attend de l'aide.
2 secouristes arrivent enfin. Mais le constat tombe en quelques minutes. Les militaires doivent se concentrer sur la recherche de survivants, pas de cadavres. Un coup rude pour cet homme dont la mère âgée séjournait dans cet hôtel. Mais l'entêtement de Saïd avait pourtant payé la veille, sortant des décombres Neza. Grand-mère de Casablanca.
Ils étaient 2 jeunes, ils sont venus avec des torches. Je suis une vieille femme et j'avais des pierres partout sur moi, ça m'oppressait. Ils ont réussi à me faire sortir par un tout petit trou. Merci Saïd, que Dieu bénisse tes parents, ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés, mon fils et moi.
Le compliment mettrait presque Saïd mal à l'aise.
C'est normal, la vie humaine n'a pas de prix. Chaque humain mérite qu'on essaie de le sauver.
2 belles histoires trop peu nombreuses à Moulay Brahim. Malgré les efforts de Saïd et des autres, la douleur des familles résonne. Et le village n'en finit plus d'enterrer ses morts après le violent séisme de vendredi.
Là, vous êtes exactement dans les mêmes conditions que la population sinistrée, avec un avantage.
Alors, avec un
spécial, c'est qu'un jour, dans quelques jours, vous savez que vous rentrez chez vous.
Voilà, moi, mon fils, il est en sécurité dans ma maison qui va bien. Forcément, ça permet de relativiser. Mais bien sûr, effectivement, en ce moment-là, on est tout le temps avec eux.
Mais on relativise énormément parce qu'on n'a pas d'enfants en bas âge avec nous et que notre situation est bien moins compliquée. On n'a perdu personne dans ce tremblement de terre. On relativise.
Toujours sur les coulisses et pour qu'on comprenne un peu comment vous travaillez. Quand est-ce que vous êtes parti au Maroc? Enfin, comment vous êtes parti rapidement après l'annonce de ce séisme?
Samedi matin, j'ai été appelée à 7h30. Donc le séisme avait eu lieu autour de 23h le vendredi soir. Donc 7h30, j'arrive à la rédaction avec un sac d'affaires, mon sac de couchage, prête pour partir. L'avion a décollé à 13h30. Il y a des détails logistiques, on doit préparer tout notre matériel pour passer les douanes marocaines, il faut qu'il soit tout déclaré, donc ça prend un peu de temps, c'est un peu de pression, mais une fois dans l'avion, on était content que ça décolle parce qu'on ne savait même pas si l'aéroport de Marrakech serait ouvert à ce moment-là, on avait des doutes. Donc voilà, après on part et on se dit de toute façon on va aller sur place parce qu'il faut y aller. La question, ce sera comment. Une fois que l'avion décolle et atterrit à Marrakech, on se dit bon, c'est parti, on prend la voiture et on y va.
Ouais, et puis dans la société de tout immédiat ou dans la logique de chaîne d'info, c'est très frustrant parce que Alors pour arriver au Maroc, déjà, forcément, il faut prendre le temps de prendre le billet, d'arriver, de passer les douanes. Et le temps d'aller sur l'épicentre, sur le lieu même du séisme, c'est très long et c'est très frustrant pour nous les journalistes parce qu'on a envie d'aller le plus vite possible sur place. Mais évidemment, bien sûr, en général, quand on va quelque part, c'est parce qu'il y a un problème et que donc les accès sont bloqués. Et on a mis quasiment 24 heures à arriver sur le lieu de l'épicentre.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, on vous a vu en direct de Marrakech, où il y avait aussi des choses à raconter. Mais le plus rapidement possible, vous avez essayé de vous rendre évidemment vers les lieux les plus frappés, à savoir ces villages reculés.
Tout c'est ça. Et évidemment, bien sûr que Marrakech, c'était impressionnant. Là, toutes les maisons sont quasi détruites, toutes les familles ont des histoires hallucinante à nous raconter sur comment elles vivent le truc, comment ça va se passer pour la suite. Donc voilà pourquoi on s'est installé entre guillemets ici en ce moment.
Ok, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. On est évidemment de tout cœur avec la population qui est dans le désarroi. Et puis nous, ici à BFM TV, on pense aussi à vous parce que vous travaillez dans des conditions difficiles et vous arrivez à nous envoyer et vos directs et vos reportages qui permettent de raconter cette réalité. Donc vraiment, énorme merci. Essayez de prendre soin de vous et continuez à travailler comme ça. C'est absolument parfait. À bientôt, les filles.
Merci Grégory.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'était l'épisode 55 du service reportage, à retrouver quand vous le souhaitez sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.